Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Le volontariat est une grâce de Dieu, c'est une force disruptive qui permet de sortir des sentiers battus pour accomplir quelque chose. Le message du pape à l'occasion de la journée mondiale du volontariat, nous y reviendrons après les titres. Motu proprio du pape François qui instaure une reprise en main de la gestion des fondations vaticanes. Explication sur ces textes techniques dans cette édition. Menacé de destitution, le chef de l'État sud-africain peut toutefois compter sur son parti, l'ANC, qui détient la majorité du Parlement. Nouvel épisode de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kigali accuse la communauté internationale d'exacerber la crise et de négliger les problèmes de sécurité du Rwanda, alors que Kinshasa revoit à la hausse le bilan du massacre de Kishishe, 300 morts selon de nouveaux chiffres présentés lundi. Veuillez retrouver également dans cette édition la seconde partie de l'entretien donné par le docteur Denis Mukwege, ainsi que notre rubrique sur la prise de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Christian Combé.
Le volontariat est une force disruptive qui permet de sortir des sentiers battus pour accomplir quelque chose. Dans son message vidéo, le pape François s'est adressé aux volontaires des JMJ 2023 qui se dérouleront du 1er au 6 août à Lisbonne au Portugal afin de les remercier pour leur générosité. C'était à l'occasion de la journée mondiale du volontariat célébrée lundi 5 décembre. Les volontaires sont une force de l'Église, une expression de la mission de l'Église, car ce sont eux qui maintiennent par leur travail volontaire l'action de l'Église, a reconnu François. Le volontariat est une grâce de Dieu, veuillez l'accueillir, a invité le Saint-Père. Les fondations du Vatican sont désormais soumises au contrôle des organes économiques de la Curie. Une décision établie par le pape mardi avec un motu proprio. Sont concernées les entités nées au sein des institutions curiales qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une certaine autonomie administrative. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Ce motu proprio s'applique aux personnes juridiques morales, c'est-à-dire aux fonds, fondations et entités qui se réfèrent au Saint-Siège. Sont incluses aussi les entités basées dans l'État de la Cité du Vatican. Tous contribuent plus ou moins directement au service du ministère du successeur de Pierre et sont donc des entités du Saint-Siège. Leur patrimoine lui aussi fait partie du patrimoine du siège apostolique. À partir de là, explique le Saint-Père, il est nécessaire qu'elles soient soumises à la surveillance des institutions curiales dont elles dépendent et aussi au contrôle et à la surveillance des organes économiques de la Curie romaine, autrement dit le secrétariat pour l'économie. Celui-ci exercera un rôle de surveillance, il vérifiera les registres comptables, les opérations financières, il y aura aussi de la prévention et de la lutte contre les activités criminelles. Un autre article, il y en a 8 en tout, évoque la fin de ces fondations ou entités lorsque leur but a été atteint ou est devenu impossible ou contraire à la loi ou bien en cas d'un nombre insuffisant de membres. Ce motu proprio entre en vigueur jeudi 8 décembre, s'inscrivant dans les réformes décrites par François dans la nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium.
Adélaïde Patrignani. Direction l'Église Famille de Dieu en Afrique. Choisis et appelés à être des pierres vivantes du Christ, pierre angulaire. C'est le thème qui a réuni du 27 novembre au 4 décembre à Liambu, l'épiscopat du Congo-Brazzaville, pour sa retraite spirituelle annuelle. Des exercices spirituels donnés par l'évêque des Bibéens en Guinée équatoriale, Monseigneur Miguel Angel Nguema. Le compte-rendu de Séverin Moussavou.
Durant une semaine, les évêques se sont retirés de leur diocèse pour se ressourcer spirituellement à travers la prière, la méditation individuelle, l'écoute, les enseignements et le partage d'expériences. Monseigneur Armel Gélaz Nkema, évêque des Ouesso, revient sur le thème de cette retraite.
Comme l'Église l'enseigne elle-même, comme cela a été aussi rappelé par notre prédicateur, eh bien nous sommes appelés chacun par son nom, mais en fait pour constituer pour nous évêques un collège unique à la tête duquel il y a le pape. Mais nous sommes aussi appelés de façon très générale, chacun par son nom, pour constituer une et seule même église, une seule et même famille.
La retraite des évêques s'est clôturée le 4 décembre par une messe en l'église paroissiale Saint-François d'Assise, présidée par Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville, président de la conférence épiscopale. La retraite spirituelle est l'un des trois rendez-vous annuels de la Conférence épiscopale du Congo avec l'Assemblée plénière et la session pastorale. Sévéra Moussavou, Pointe Noire pour Radio Vatican.
Des milliers de fidèles ont rempli le sanctuaire de Notre-Dame de la Nativité de Kachéou, au nord de la Guinée-Bissau, le 2 et 3 décembre, lors d'un pèlerinage marial dont la devise était « Avec Marie, marchons ensemble vers une église de communion, de participation et de mission ». Selon le père Lucio Brentegani, administrateur diocésain de Bafata, qui a présidé la messe de clôture et l'envoi des pèlerins, la Guinée-Bissau a besoin du levain de l'évangile pour que la masse de la vie sociale et familiale des gens devienne évangélique, faite d'amour, de fraternité et de solidarité. Le pèlerinage a vu la participation de représentants de la communauté islamique et de l'église évangélique de Guinée-Bissau, un fait salué par l'administrateur diocésain de Bafata qui s'est félicité de la bonne coexistence qui règne entre les différentes confessions religieuses présentes dans le pays. Voilà pour les nouvelles de l'église. Passons à présent à notre page sur l'actualité sociopolitique africaine que nous ouvrons avec l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa pouvait se présenter devant le Parlement serein. Le président sud-africain bénéficie du soutien plein et entier de son parti, l'ANC. Les députés doivent toutefois se réunir pour décider ou non d'entamer un processus de destitution. À Johannesburg, les explications de Gabriel Porometo.
Contre-attaque de Cyril Ramaphosa dans l'affaire qui secoue l'Afrique du Sud depuis la semaine dernière. Le président a saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler le rapport parlementaire qui l'accable sur un scandale de cambriolage et de dissimulation de plus de 500 000 dollars en liquide sous un canapé. Une décision soutenue par son parti, l'ANC. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour décider de lancer ou non une procédure de destitution. Mais il aurait peu de chances d'aboutir car l'ANC détient une majorité confortable au Parlement. La semaine dernière, le président sud-africain a failli démissionner suite aux révélations du rapport parlementaire, mais ses alliés ont réussi à lui faire changer d'idée, après avoir constaté une chute de la monnaie en bourse et une déstabilisation des marchés. Même si l'image publique de Ramaphosa est lourdement tachée par ce scandale, il est encore le candidat le plus soutenu de son parti. L'ANC se réunit le 16 décembre prochain pour désigner son candidat à la présidentielle de 2024, une élection qui pourrait voir le parti de Nelson Mandela perdre la majorité absolue pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
Le ministre rwandais des Affaires étrangères a accusé lundi soir la communauté internationale d'exacerber la crise dans l'est de la République démocratique du Congo après que les États-Unis ont exhorté Kigali de cesser tout soutien supposé aux rebelles. Monsieur Vincent Biruta a affirmé que les problèmes de sécurité du Rwanda doivent être pris en compte, poursuivant que le M23 ne doit pas être assimilé au Rwanda. Lors d'un appel dimanche avec le président rwandais Paul Kagame, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit clairement que tout soutien externe à des groupes armés non étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23. Restons dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a revu lundi à la hausse, à environ 300 morts, le bilan d'un massacre dont il accuse la rébellion du M23 le 29 novembre dans un village de l'est du pays, Kishishe. Ces nouveaux chiffres proviennent de la société civile et d'une organisation qui regroupe toutes les communautés de la région, a expliqué lors d'un point de presse le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Des enfants ont été tués dans une église et dans un hôpital, a précisé Patrick Mouyaya. Il y a des difficultés à recouper tous les chiffres car la zone est sous occupation du M23, mais un travail de consolidation est en cours, a-t-il ajouté.
Radio Vatican, Français-Afrique, Christian Combé.
Direction la Libye. La compagnie nationale libyenne de pétrole, NOC, a appelé les entreprises internationales actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leurs opérations d'exploration et de production, arguant d'une amélioration de la situation sécuritaire, selon un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Terminons cette page d'actualité avec le Niger. Devant le manque d'aide des pays riches à la transition climatique en Afrique, il n'est pas possible d'abandonner l'exploitation du pétrole, un des espoirs du développement au Niger, a affirmé lundi le ministre nigérien des Finances, Ahmad Jidoud. Le plan de développement nigérien, présenté lundi par le président Mohamed Bazoum, présent à Paris, se base sur 13,35 milliards d'euros de ressources propres de l'État, financées en partie grâce au développement des exploitations pétrolières et d'un nouvel oléoduc. Quelques semaines après l'issue de la COP27 à Sharm el-Sheikh, la lenteur en matière de transition climatique en Afrique vient surtout des lenteurs des Occidentaux, a regretté M. Ahmad Jidoud. après la première partie de son intervention où il alerte sur la situation de l'insécurité dans l'est de la RDC, Dr Denis Mukwege revient dans cette deuxième partie sur des actions concrètes qu'il mène pour les soins de santé administrés aux femmes, notamment dans son hôpital de Panzi. Le prix Nobel de la paix 2018 compte élargir son champ d'action en sollicitant les aides multiples pour la réalisation de ses projets. Nous vous proposons de l'écouter dans des propos recueillis par Alessandro Di Bussolo du service italien de Radio Vatican, traduit par Olivier Bonnel.
À l'hôpital de Panzi, nous avons une catégorie de malades qui reçoivent les soins gratuitement. Ce sont d'abord les femmes victimes de violences sexuelles que non seulement nous soignons, nous transportons, mais nous nourrissons et nous leur fournissons des kits d'hygiène. Il y a tous les malades atteints de VIH-SIDA que nous prenons en charge gratuitement. Tous les enfants qui souffrent de malnutrition sont pris en charge gratuitement. Toutes les femmes qui ont eu des conséquences obstétricales aboutissant à des fistules, donc la communication entre la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin, et qui perdent les matières fécales ou les urines sans contrôle, nous les soignons gratuitement. Et aujourd'hui, nos moyens avec lesquels nous les prenons en charge sont des moyens qui nous viennent des différents bailleurs, y compris les églises. Et donc, je crois que ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir continuer à aider cette catégorie de population abandonnée, rejetée et qui ne peut pas accéder aux soins. Et votre soutien peut être, bien sûr, le bienvenu.
Et si vous aviez davantage de fonds, auriez-vous le projet d'avoir un autre hôpital ailleurs au Congo ?
Absolument. Je crois que les femmes viennent de très très loin. Aujourd'hui, nous avons commencé à Kinshasa, où nous avons déjà des activités, mais nous avons acheté un terrain à Kisangani, où nous pensons que les femmes qui viennent de toute la région de Tchopo et les environs peuvent être traitées à Kisangani, et nous avons également commencé des travaux dans les Sankuru, à Lodja, où nous pensons pouvoir aussi construire une clinique qu'on appelle le One Stop Center. Pour nous, l'objectif, c'est approcher les soins des malades. Le grand problème, c'est que les malades qui doivent venir de très loin, nous avons des malades qui viennent des Gemena, qui viennent des Kabinda, qui viennent des Yumbi, très au nord. C'est très très difficile de les amener jusqu'à Panzi. Il faut un avion jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, Goma, puis Bukavu. C'est trop cher pour nous. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut délocaliser l'hôpital de Panzi pour avoir des centres qui peuvent faire le même travail que nous faisons en dehors de Panzi.
Quel est votre rêve pour le futur des femmes congolaises du Congo?
Je crois que je vais rêver avec les femmes congolaises et qui, lorsque vous leur demandez ce qu'elles rêvent, elles rêvent avoir la paix. Et je pense que avoir la paix en République démocratique du Congo, ça serait une denrée rare qu'on n'a pas eu depuis 25 ans. Mais c'est de ça que nous avons besoin pour pouvoir reconstruire notre pays, donner l'avenir à nos enfants, éduquer nos enfants dans des conditions qui sont acceptables.
Donnons la parole à présent à Jacques Ngol pour la rubrique sur la prise de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde.
Ouvrons notre rubrique par les États-Unis d'Amérique. Élu par ses pairs le 15 novembre dernier à la tête de la conférence épiscopale américaine, Mgr Timothy Broglio a pour mission d'accompagner les catholiques du pays vers le synode. Un parcours délicat au regard du contenu de la synthèse des consultations menées aux États-Unis. Elle est apparue sans concession, notamment déplorant le manque d'unité dans une église divisée. Des positions différentes émergent sur des questions de théologie, des politiques, de relations internes, jusque dans la relation entre les évêques et leurs prêtres. Or, le grand enjeu du synode, c'est de surmonter ces obstacles et parvenir à marcher ensemble.
J'espère que le processus synodal nous aide à ouvrir à l'autre, à l'écouter et aussi de marcher ensemble. Ça signifie beaucoup de travail, mais je crois que nous sommes préparés pour le faire. Et il faut vraiment aller en avant parce qu'on ne peut pas rester divisé comme nous sommes maintenant.
Concernant la question sur l'avortement, le pape François a répété dans la revue America Magazine que l'avortement est un crime, mais que ce n'était pas pour l'Église une affaire civile, mais une affaire de pastorale. Quant au débat de donner ou non l'Eucharistie au pro-choice, le pape souligne que la question n'est pas celle de la conférence épiscopale américaine, mais celle des évêques à titre individuel. Comment est-ce que vous accueillez ces recommandations ?
Je suis canoniste, ça c'est le droit canonique qu'il faut respecter. C'est la décision de l'évêque de lieu pour dire la position, ceux qui peuvent recevoir l'Eucharistie et ceux qui ne peuvent pas. Ça dépend vraiment de l'évêque de lieu. Évidemment, je crois que la question que peut-être il faut souligner, c'est que vraiment la personne qui n'accepte pas l'enseignement de l'Église sur l'avortement ou sur n'importe quelle question, doit soi-même ne se présenter à recevoir l'Eucharistie.
Interrogé par Jean-Charles Pozzolo, Mgr Timothée Broglio, président de la Conférence épiscopale des États-Unis, était l'invité de Radio Vatican. Toujours en Amérique, l'équipe nationale des pastorales aborigènes d'Argentine a dénoncé la violence et la dureté avec lesquelles sont réprimés ceux qui défendent leurs droits à leur territoire et à vivre selon leur vision du cosmos, ainsi que ceux qui accompagnent ces revendications. C'était à l'issue de la réunion au cours de laquelle ont été évaluées les activités réalisées en 2022 avec les peuples autochtones et identifiées les actions pour 2023. La réunion qui s'est tenue à Cordoba du 2 au 4 décembre a vu la participation des représentants des équipes diocésaines de tous les pays et du président de la commission épiscopale pour la pastorale autochtone, Mgr Luis Antonio Scozina, évêque d'Oran. Reconnaissant la pluralité des peuples autochtones présents en Argentine, la déclaration finale a déploré l'expulsion persistante de leur espace de vie, ainsi que les niveaux élevés d'ignorance, de discrimination et de racisme qui existent dans la société en général, reflétant une image très négative des peuples autochtones exprimée principalement dans les médias qu'il faut combattre en faisant connaître leur réalité. L'Église catholique en Inde a célébré dans la joie la fête de Saint-François-Xavier le 3 décembre dernier avec l'exposition extraordinaire de sa dépouille mortelle qui est en cours à Goa et durera jusqu'au 5 janvier 2023. Le sens de l'événement dévotionnel est de ramener chaque âme à une rencontre personnelle avec le Christ, de réfléchir au parcours de foi de François-Xavier et d'imiter son zèle pour l'annonce de l'Évangile, a déclaré le cardinal Felipe Nero Ferrao, archevêque de Goa et d'Aman, en annonçant solennellement l'exposition du corps du cofondateur de la Compagnie de Jésus et saint apôtre de l'Orient. Il y a un an jour pour jour, le pape François s'envolait pour la Grèce pour son 35e voyage apostolique. Le 5 décembre 2021, l'évêque de Rome était à Lesbos pour un moment fort aux côtés des réfugiés avant de rejoindre Athènes où il rencontrait Hiéronyme II, l'archevêque orthodoxe de la capitale grecque et de toute la Grèce. Un voyage à forte connotation œcuménique durant lequel le pape François a souligné les racines communes unissant catholiques et orthodoxes dans ce pays où l'Église romaine compte seulement 40 000 fidèles grecs. Avec un an de recul maintenant, Mgr Théodore Contidis, archevêque catholique d'Athènes, évoque les fruits semés et récoltés après ce voyage apostolique.
La venue du pape François était importante parce qu'elle a donné l'image d'une église catholique qui n'est pas du tout dans la phase d'extension, d'agression, aucune image d'impérialisme religieux ou ecclésiastique. Au contraire, une image d'attention, de rencontre, d'intérêt pour les pauvres et ceux qui sont dans les besoins, spécialement pour les réfugiés qui se trouvent sur le territoire grec.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Combé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.